le laisser parler à notre cœur. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons faire silence devant lui pour que ce soit lui qui s'exprime, que ce soit lui qui parle au cœur de chacun de nous ce matin. Nous allons prier. Père éternel, c'est toi que chacun de nous ce matin veut honorer. Merci parce que tu veux que chacun de nous, Seigneur, soit un instrument entre tes mains, Seigneur. Et merci parce que c'est toi qui veux m'utiliser, Seigneur, comme un simple vase pour annoncer ta parole ce matin. Que tout ce qui est source d'orgueil et source qui n'est pas de toi, Seigneur, soit chassé ce matin. Et que ton esprit vienne ce matin et remplisse ce lieu, remplisse nos cœurs et nous dispose à t'écouter, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Jean. Jean à partir du chapitre. Jean chapitre 16, à partir du verset 5. Jean 16, à partir du verset 5. Je lis. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu ? Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voici la grande promesse que le Seigneur Jésus a faite à ses disciples, mais aussi à chacun de nous. Le Seigneur a promis à ses disciples de leur envoyer le Consolateur, l'Esprit de vérité. L'une des grandes vérités, quand on lit la Bible, surtout au niveau de l'Ancien Testament, c'est que la Bible nous dit, au niveau de l'Ancien Testament, qu'il y a un seul Dieu. Et ce seul Dieu, il est connu comme le Créateur, le Tout-Puissant, comme l'Éternel. Et qu'est-ce que le diable a tenté de faire dans tout l'Ancien Testament? Il a sans cesse essayé d'altérer et détruire cette vérité-là. Oui, il a essayé en entraînant les hommes loin de Dieu et en dirigeant le cœur des hommes vers de faux dieux. Et l'autre grande vérité, quand on parcourt le Nouveau Testament, c'est que Dieu est une Trinité. Dieu s'est révélé à nous comme Dieu le Père, comme Dieu le Fils et comme Dieu le Saint-Esprit. Et maintenant, c'est contre cette vérité fondamentale que Satan se déchaîne. Contre cette vérité. Il sait qu'avec cette vérité, notre foi chrétienne demeure. Mais sans cette vérité, notre foi chrétienne tombe. Satan, après avoir nié l'existence de Dieu, après avoir contesté que Jésus-Christ est Dieu, aujourd'hui, il est en train d'obscurcir chacun de nous en nous empêchant de voir la véritable révélation que la Bible donne du Saint-Esprit. Combien parmi nous savent que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance ou une influence, mais vraiment une personne divine? Combien savent que le Saint-Esprit habite en chacun de nous? L'apôtre Paul dit expressément que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui n'est pas de Christ. Et il le dit dans son épître aux Romains. Quelle joie de réaliser que Dieu, le Saint-Esprit, habite en moi. Quelle joie. Quelle joie de réaliser que Dieu, le Saint-Esprit, habite en chacun de nous. Quel bonheur. Non seulement il habite en nous, mais il veut organiser et il veut diriger notre vie. Nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur. Et nous savons que Dieu, le Saint-Esprit, habite en chacun de nous. La question est donc de savoir pourquoi nous ne voyons pas son œuvre à l'intérieur de nous. Pourquoi nous ne voyons pas son œuvre à l'extérieur de nos vies? Pourquoi? On peut se poser cette question. Dieu, le Saint-Esprit, habite en moi. Et il n'y a aucune transformation dans ma vie. Pourquoi? Il y a sûrement un problème. Il y a sûrement un problème. Est-ce parce que, comme le dit l'apôtre Paul, nous attristons le Saint-Esprit? Nous l'attristons en ne le laissant pas diriger notre vie. Ou bien, la deuxième partie, sommes-nous arrivés à l'éteindre? à l'éteindre en refusant de nous soumettre à la direction nouvelle qu'il veut donner à notre vie. L'avons-nous attristé ou l'avons-nous éteint? Nous allons essayer ensemble ce matin, en toute simplicité, en toute humilité, d'examiner l'œuvre intérieure du Saint-Esprit, également l'œuvre extérieure du Saint-Esprit dans nos vies, afin d'apprendre à le comprendre et à coopérer avec lui. Le meilleur exemple, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ. Nous avons vu comment l'Esprit de Dieu a travaillé puissamment dans la vie de Jésus-Christ, mais après dans la vie de ses disciples. Le Saint-Esprit était très actif dans la vie de Jésus. Et la Bible nous dit que Jésus était convaincu par le Saint-Esprit et qu'il fut rempli du Saint-Esprit depuis sa conception. Il était oint par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit le prépara pour son ministère sur la terre. Donc nous pouvons dire que le rôle du Saint-Esprit dans nos vies est très étendu, également varié. Et la Bible nous apprend que nous recevons le Saint-Esprit à notre nouvelle naissance. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur, nous sommes remplis de sa puissance pendant notre baptême en lui, comme ce fut pour les apôtres. Nous recevons son sceau, comme le dit la Bible, son caractère bien distinctif. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui est le garant de notre héritage. Il vient habiter en nous. Il nous enseigne toutes choses, comme le dit la parole de Dieu. Il nous régénère et il nous renouvelle. C'est vrai que tout ça, c'est encore de la théorie. Mais concrètement, comment ça se voit dans nos vies de tous les jours? Nous allons nous concentrer sur deux aspects du Saint-Esprit dans nos vies. L'œuvre intérieure du fruit de l'Esprit de Dieu et l'œuvre extérieure des dons de l'Esprit de Dieu. Chacun de ces aspects est vital dans notre marche chrétienne. L'œuvre intérieure et l'œuvre extérieure du Saint-Esprit. L'œuvre intérieure se concrétise par le fruit de l'Esprit de Dieu. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, il dit que si le fruit de l'Esprit ne se voit pas dans nos vies, les dons que nous allons recevoir de lui seront comme du bronze qui résonne ou comme une cymbale qui retentit. Le fruit apparaît dans le développement de notre caractère. Et cette œuvre intérieure est d'abord pour notre bien à chacun de nous. Et après, elle va aussi bénir les autres. L'œuvre extérieure se concrétise par les dons de l'Esprit. Et l'apôtre Paul nous commande de ne pas ignorer les dons spirituels. Et cette œuvre extérieure est d'abord un bénéfice aux autres, mais elle nous bénit aussi. Et l'équilibre des deux est nécessaire dans nos vies. Nous allons nous arrêter un peu sur le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons lire Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Je lis. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Voici le fruit. La Bible ne parle pas des fruits, mais du fruit de l'Esprit de Dieu. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, et quand nous lui disons, Seigneur, organise et dirige ma vie, voici les qualités de caractère qu'il met et qu'il développe en chacun de nous. Il vient mettre en nous son amour agapé, son amour inconditionnel qui n'est pas basé sur les émotions. Il vient mettre en nous sa joie. Cette joie qui est plus profonde que le bonheur et qui ne dépend pas des circonstances. Il vient mettre également en nous sa paix. Sa parole dit que sa paix surpasse toute intelligence. Imaginons un peu un couple où il n'y a pas de conflit. La paix que chacun ressent. Mais la paix de Dieu, c'est la sécurité et la tranquillité qui dépassent le fait qu'il n'y ait pas de conflit. Il met également en nous sa patience. Sa patience, comme le dit l'apôtre Jacques, qui nous permet non seulement d'être endurant, mais qui nous permet aussi d'être ferme. Il vient mettre en nous également son intégrité par sa bienveillance. Il met en nous la fidélité qui nous donne de ne pas vaciller même quand c'est difficile. Il vient mettre en nous sa bonté. Sa bonté qui se traduit par la droiture dans nos cœurs et dans nos vies. Il vient mettre en nous sa douceur. Sa douceur qui est la force contrôlée par Dieu lui-même. Et comme autre qualité de caractère, il vient mettre en nous la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Le Dieu Saint-Esprit nous aide à maîtriser non seulement nos désirs, mais à maîtriser également nos émotions. Voici ces qualités de caractère que l'Esprit de Dieu vient mettre en chacun de nous. Ce qui est formidable, c'est que quand Dieu vient et qu'il développe ses qualités de caractère en nous, il permet que cela se voie. Que cela se voie dans notre relation avec lui. Mais que cela se voie aussi avec les autres, vis-à-vis de notre conjoint, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos amis, il permet que cela se voie. C'est vrai que actuellement le Seigneur m'a fait la grâce de lire les évangiles. Et c'est vrai que je prends plaisir à lire et à relire les évangiles. Mais une des choses qui m'a vraiment frappé et qui continue de m'interpeller, c'est que le Seigneur Jésus n'a jamais pris le temps de guérir une relation de couple de façon miraculeuse. Pourtant, dans la foule qui le suivait, il y avait des gens qui peut-être étaient divorcés, qui avaient des difficultés dans leur couple, mais il n'a pas pris le temps de régler un problème de couple. Pourquoi? La Bible nous dit que Jésus n'a jamais pris un rôle de médiateur quand les problèmes surgissent au niveau des relations. Jamais. Si nous prenons l'exemple de la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, elle est allée voir Jésus et elle a dit à Jésus, proclame, sinon ordonne que mes fils, après, quand ils vont monter au ciel, que un s'asseye à ta droite et l'autre à ta gauche. Et nous avons vu le malaise que ça provoquait dans le cœur des 10 autres disciples. Mais au lieu d'être le médiateur, il a demandé à Jacques et à Jean s'ils étaient capables de boire la coupe que lui allait prendre. Et aux autres, qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce que vous êtes prêts à servir? Est-ce que vous êtes prêts à vous abaisser? Parce que pour être élevé, il faut d'abord s'abaisser. Même pour la femme adultère, il n'a pas pris parti dans la dispute. Jésus savait que les problèmes relationnels étaient d'abord des problèmes de cœur. Et il défiait chacun dans son propre problème. Jésus touche à la motivation de notre cœur au lieu d'entrer dans le conflit relationnel. Et c'est cela que Dieu, le Saint-Esprit, veut amener chacun de nous à reconnaître. À reconnaître que les problèmes relationnels viennent d'abord du cœur. Il arrive un moment que quand ça ne va pas dans un couple, on arrive à voir des conseils un peu à gauche, à droite. On va voir des frères pour nous aider, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur continue de nous dire que nous devons examiner d'abord notre cœur. Examiner notre cœur en premier, d'abord. Ce qui est formidable au niveau du mariage, c'est que le mariage est peut-être la meilleure relation sur terre pour développer son caractère. L'intimité de notre relation maritale va faire sortir rapidement les faiblesses de notre caractère, beaucoup plus rapidement que dans toute autre relation. Si le fruit de l'Esprit de Dieu n'est pas réel dans ma vie, il sera difficile de vivre sur une longue période avec la personne que je connais le mieux, avec mon conjoint. l'amour, si la joie, si la paix, si la patience, si la bonté, si la bienveillance, si la fidélité, si la douceur, si la maîtrise de soi n'est pas à moi, ne prospère pas en chacun de nous, toute relation sera compliquée. Toute relation sera compliquée. Nous avons besoin dans nos relations maritales d'une communion profonde, d'une compréhension mutuelle profonde. Alors on pourra surmonter tous les malentendus, on pourra surmonter toutes les difficultés. Se marier est une chose, mais construire un foyer est une autre chose. Avoir le Saint-Esprit est une chose, mais avoir une communion intime avec le Saint-Esprit est une autre chose. Le Saint-Esprit est une personne avec laquelle nous devons développer une communion profonde. Apprenons chacun de nous à dépendre de l'Esprit de Dieu. Demandons à Dieu de nous aider à dépendre totalement de son Esprit. Parce que nous avons confessé que Jésus est notre Seigneur et Sauveur et il vit en chacun de nous. C'est lui qui sera la ressource éternelle de notre vie. Et ce qui est bien, c'est qu'en lui, nous découvrons Dieu le Père et nous découvrons Dieu le Fils, Jésus-Christ. Et c'est par lui que nous allons vivre dans le royaume de Dieu. Je pense que chacun de nous, quand on va dans un supermarché, quand on va dans le rayon des fruits, on est content de prendre les fruits qui sont bien mûrs. Le but final de la production de l'Esprit de Dieu en chacun de nous, c'est la maturité. Parce que nous savons qu'un fruit mûr est plus doux qu'un fruit qui est vert. Et c'est la même chose dans le domaine spirituel. Le but de chacun de nous est de produire du fruit spirituel qui est mûr. Il arrive un moment, moi je suis passé par là aussi, et en tant que nouveau converti, on n'est pas moins complexé quand on se retrouve dans des réunions de prière. On ne sait pas comment prier, comment agencer les phrases, on cherche les mots. Il y a un petit complexe qui s'installe. Ah, je suis nouveau converti, je ne sais pas prier. Quand j'écoute le frère qui est à côté qui prie, il y a certains même qui sont capables de réciter tout un livre. Et on se demande, mais quand est-ce que je vais arriver à bien prier? Mais Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas ça. Parce que quand l'Esprit de Dieu nous révèle ce que c'est que la véritable maturité spirituelle, on a la paix dans notre cœur. Parce que la maturité spirituelle, la véritable, elle n'est pas fondée sur le nombre de versets bibliques que nous connaissons. La maturité spirituelle n'est pas fondée sur la durée de notre vie chrétienne. C'est une bonne chose de connaître la Bible. C'est une bonne chose d'être converti tôt. Mais la maturité spirituelle n'a rien à voir avec ça. La maturité spirituelle se mesure à la soif que chacun de nous a pour l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Même si je ne connais pas la Bible, que j'obéis à l'Esprit de Dieu qui est en moi, je suis mature. Les pharisiens qui passaient leur temps à provoquer Jésus connaissaient parfaitement la Bible, mais ils n'étaient pas matures spirituellement. Si j'obéis à l'Esprit de Dieu, si je suis sensible à ce que Dieu me dit, je suis mature spirituellement. Mais si je récite la Bible tout entière, c'est une bonne chose de connaître la parole de Dieu. Mais si l'Esprit de Dieu ne change pas ma vie, si l'Esprit de Dieu n'a aucune influence sur moi, je ne suis pas mature spirituellement. Voici l'une des vérités que le Seigneur nous révèle au travers de sa parole. C'est seulement de cette façon que la puissance du Saint-Esprit en nous va transformer nos cœurs et produire du fruit spirituel dans nos vies. L'autre vérité également, c'est que l'Esprit de Dieu ne désire pas seulement œuvrer dans nos vies, ne désire pas seulement s'arrêter au stade de ce que nous recevons. Il veut agir également au travers de nous avec puissance. Et au contraire du fruit de l'Esprit qui se produit en nous, les dons de l'Esprit de Dieu apparaissent comme le résultat de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et la parole de Dieu nous dit que les dons de l'Esprit sont donnés pour l'utilité commune, sont donnés pour bénir les autres par une intervention surnaturelle de Dieu. C'est à cela que servent les dons. Les dons nous sont donnés pour répondre aux besoins qui dépassent notre capacité naturelle. Et nous le constatons. Leur intervention, l'intervention des dons montre ce que Dieu fait. Quand il y a un miracle, on voit ce que Dieu fait. Et non pas celui qui a fait le don. C'est lui qui a manifesté le don. Quand il y a un miracle, c'est le nom de Dieu qui se glorifie. Et non la personne que Dieu a utilisée comme un instrument. Le Saint-Esprit a besoin de chacun de nous. Il a besoin de chacun de nous comme un vase, simplement. Un vase qui est disponible pour qu'il opère. Et si Dieu nous choisit ce matin pour être ce vase, on ne peut que dire gloire à son nom. Notre seul sujet de joie doit être l'œuvre de Dieu, et ne pas devenir fier d'avoir été choisi ou de voir le Saint-Esprit agir puissamment en nous. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que chacun de nous soit disposé à le laisser agir dans nos vies. Ce matin, le Seigneur ne m'a pas mis à cœur de parler des différentes catégories de dons. Il ne m'a pas mis à cœur de rentrer dans les détails. C'est vrai que La Bible nous parle de plusieurs dons qui sont tous importants. Et l'apôtre Paul nous invite à les connaître, à connaître ces dons et ne pas les négliger. Je pense qu'il y a un temps pour toutes choses. Et sûrement, il y aura le temps de parler en détail de ces dons spirituels. Mais aujourd'hui, Dieu veut que chacun de nous sache qu'il habite dans nos cœurs, qu'il habite à l'intérieur de nous et qu'il veut que simplement on lui laisse la place pour qu'il agisse dans nos vies. L'Esprit de Dieu veut nous utiliser et il veut nous utiliser partout. L'Esprit de Dieu ne se manifeste pas seulement au niveau de l'Église, mais se manifeste à l'extérieur, dans nos foyers, dans nos familles. L'Esprit de Dieu veut se manifester partout. C'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Le Seigneur veut que chacun de nous ce matin fasse silence dans son cœur. Que chacun de nous ce matin mette de côté son intelligence. Que chacun de nous s'examine profondément et renouvelle son alliance avec lui. Voici ce que Dieu veut pour nous ce matin. Si nous voulons que notre Église soit transformée, si nous voulons que nos enfants soient transformés, si nous voulons que notre famille soit transformée, si nous voulons que nos relations, nos rapports avec les autres soient transformés, si nous voulons que notre couple soit transformé, l'Éternel nous demande une seule chose: apprendre à bien le comprendre, à bien comprendre qu'est-ce que son esprit, et à coopérer avec lui, rester sensible à son esprit. Voici ce que Dieu veut que ce matin chacun de nous retienne. Apprenons à coopérer avec son esprit. Et c'est lui seul qui va nous transformer. C'est lui seul qui va nous transformer. On n'aura pas à faire de la gymnastique, à nous décarcasser, à faire des choses extraordinaires. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin que chacun de nous participe à son œuvre. Il veut qu'on le laisse agir dans nos vies. Il veut qu'on le laisse agir. Mais soyons disposés simplement et acceptons-le comme il est. Ma prière, c'est que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse nos familles. Que Dieu nous transforme comme lui veut et pas comme nous, nous voulons. Parce qu'en chacun de nous, il veut mettre un don spécifique pour l'édification de notre Église, pour la transformation de notre Église. Si chacun de nous est rempli du Saint-Esprit, notre Église sera forte. Si chacun de nous se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, beaucoup de choses vont changer. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Ce matin, il ne m'a pas mis à cœur un message spécifique pour le couple. Dieu veut agir dans nos vies. Si Dieu nous transforme, ça va de peine. Ça va de peine forcément sur notre famille. Mais si Dieu ne nous transforme pas, ça va être compliqué. Que Dieu nous bénisse et qui nous amène à être sensibles toujours à lui. Qui nous amène à être toujours sensibles à lui. Nous allons prier. Oui, Seigneur, je te bénis ce matin encore. Je te bénis parce que tu veux que chacun de nous fasse silence devant toi. Que chacun de nous voit, Seigneur, qui tu es réellement, Seigneur. Que chacun de nous voit, Seigneur, la transformation que tu veux opérer dans nos vies, Seigneur. Père éternel, tu nous aimes et tu veux nous bénir. Et tu veux que nous soyons des vases à ta disposition pour que tu agisses dans nos vies. Oui Seigneur, agis dans nos vies, agis dans nos familles, transforme nos cœurs Seigneur et aide-nous à aller de l'avant tous les jours avec toi. Tu nous aimes, Seigneur. Aide-nous à le comprendre et à le voir. Tu nous aimes et tu veux, Seigneur, qu'il y ait de la transformation dans nos vies. Aide-nous à être sensibles à ta voix, Seigneur. Je te bénis de ce que, éternel, ton regard se tourne vers nous ce matin. Agis puissamment, Seigneur, dans nos vies. Et que dans le cœur de chacun de nous, ton nom soit sanctifié, ton nom soit glorifié, ton nom soit honoré. Merci Seigneur. Amen.